Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission du mercredi 16 juin sur Divergence FM. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent.
Nous sommes toujours tous les deux dans ce studio à présenter cette émission hebdomadaire. Alors il est probable que ce soit la dernière, en tout cas en ce qui te concerne.
Oui, puisque moi je vais partir pendant deux semaines là, m'aérer un petit peu le crâne et ne plus mettre les pieds dans une salle de cinéma. Et après, je ne sais pas si on reprendra, ça m'étonnerait. Donc ça risque bien d'être la dernière de la saison.
Et moi cette semaine, c'est comme si j'avais été en vacances, sauf que j'étais tout dédié à la danse contemporaine, et en tout cas j'ai vu aucun film, donc je commence mon sober, ça va être très simple, ce sera une interview par téléphone de Laurence Richard qui s'occupe de la communication au Cap d'Agde. Et pourquoi on ira au Cap d'Agde? Eh bien parce qu'il y a un festival de cinéma qui s'appelle Les Héros du cinéma, qui commence le 18 et qui se termine le 21 juin, avec des invités comme Gérard Depardieu, ce sera la big star de ce week-end, et puis je ferai les événements en toute fin d'émission.
Et quant à moi, donc pareil, en fin d'émission, je vous ferai un petit agenda des films à ne pas rater pendant les vacances d'été. Et tout de suite, je vais attaquer donc cette dernière émission de la saison par un petit topo sur un réalisateur qui me tient particulièrement à cœur et qui pour moi est l'un des derniers grands génies du 7e art. Donc voilà, si je devais m'exiler à vie sur une île déserte pour échapper à mes créanciers, à l'ISF, ou à mes ex-femmes, une chose est sûre, c'est que j'emporterai avec moi un projecteur 35 mm, un écran de cinéma, un fauteuil du Gaumont Multiplex, du pop-corn, un groupe électrogène et quelques films de Terry Gilliam.
Laissez le docteur Parnassus ouvrir les portes de votre imagination et vous faire atteindre des sommets sur les ailes de la beauté en vous transportant dans les mondes inimaginables.
Ça finit avec une femme heureuse ?
Désolé, on ne peut pas le garantir.
Alors, à l'instar de Tim Burton, Terry Gilliam est un réalisateur dont on peut reconnaître le style en quelques plans. Tout au long de sa filmographie, il est parvenu à développer un univers visuel et narratif très particulier, entre baroque et grotesque. Un monde où l'imagination prime sur le réalisme et où l'humour est toujours prêt à surgir des situations les plus noires. Alors qu'aujourd'hui, trop de cinéastes se contentent de reproduire à l'écran ce que tout un chacun peut découvrir en vivant sa vie quotidienne ou en ouvrant un journal, que ce soit dans des mélodrames, des films sociaux ou même des films policiers, eh bien Gilliam, lui, en grand raconteur d'histoire, nous embarque avec chacune de ses œuvres dans des aventures toutes plus incroyables les unes que les autres. Il n'hésite pas à nous entraîner dans des dimensions inexplorées, dans la fantasy, la science-fiction ou le conte, pour le temps d'un film, nous faire un peu oublier la réalité. Alors pour tenter de vous faire partager mon intérêt, ma passion presque pour le bonhomme, je vais essayer de ne pas tomber dans ma fâcheuse habitude de retracer avec une précision de monomaniaque la carrière d'un réalisateur, du berceau à la tombe, comme je l'avais fait avec Ridley Scott, il n'y a pas si longtemps, à qui j'avais consacré 14 émissions consécutives. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de fonctionner différemment et d'aborder Terry Gilliam de façon pas chronologique et de façon à dégager de son œuvre une partie de sa substantifique moelle. Donc en me replongeant récemment dans sa filmo, je me suis rendu compte que chacun de ses films peut être considéré finalement comme la variation d'une même thématique récurrente que le réalisateur explore depuis maintenant plus de 30 ans. Dans tous ses films, depuis Jabberwocky en 1976 jusqu'à l'Imaginarium du docteur Parnassus, qui est sorti en novembre dernier, Gilliam s'est intéressé de façon plus ou moins évidente à la question de l'évasion dans l'imaginaire, le fantasme et l'hallucination, ou comment fuir la triste réalité pour se réfugier ailleurs, et comment cette fugue permet de mieux prendre conscience de ce qu'il y a de beau, d'admirable, ou au contraire de particulièrement affligeant dans le monde réel.
Thank you.
Voilà, vous l'aurez reconnu, donc un extrait de la bande originale de Brazil. Hein. Et maintenant que vous avez cette rengaine dans la tête pour toute la semaine, on va pouvoir commencer. Donc pour son premier long métrage, Terry Gilliam choisit de porter à l'écran un court poème de Lewis Carroll, Jabberwocky, qui se trouve dans le deuxième roman consacré aux aventures de la petite Alice, De l'autre côté du miroir. Alors dans le livre, le poème d'une page environ est rédigé à l'envers et doit être lu dans un miroir. Mais même remis dans le bon sens, le texte reste particulièrement énigmatique. Je vais vous lire la première strophe. Il était reveneur, les slictueux toves sur la loin giraient et vriblaient, tout flivoreux vaguaient les borogoves, les ferchons fourgus bourniflaient. Voilà, donc c'est assez particulier, ça a beaucoup plu aux surréalistes, entre autres Antonin Artaud, c'est un très court poème d'une page à peu près. Et Gilliam s'est servi de cette histoire en fait, qui raconte un peu une aventure d'un dragon qui menace les habitants d'un village et un jeune va affronter le dragon. Donc le style du film est encore très inspiré par le ton absurde et l'humour potache du Monty Python's Flying Circus, le groupe au sein duquel Gilliam a commencé à faire parler de lui en tant qu'animateur, puis dont il a réalisé le premier film, Sacré Graal. Alors si le film en lui-même ne traite pas particulièrement de l'imaginaire ou de la relation entre réalité et fiction, il est intéressant de voir que le réalisateur a choisi son matériau de départ dans l'œuvre de Lewis Carroll, qui est l'auteur d'une des plus notables évasions dans le merveilleux. Contrairement à Tim Burton, qui s'est, paraît-il, complètement foiré avec son Alice au Pays des Merveilles, en 3D, que je n'ai toujours pas vu, Gilliam ne s'est jamais frotté à une adaptation directe de cette mythologie particulière. Pourtant, presque 30 ans plus tard, il ouvre l'un de ses films sur ces mots.
Pendant un certain temps, elle marcha droit devant elle dans le terrier, comme dans un tunnel. Puis le sol s'abaissa brusquement. Si brusquement qu'avant d'avoir eu le temps de penser à s'arrêter, elle se trouva en train de tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Soit que le puits fût très profond, soit qu'elle tomba très lentement, elle s'aperçut qu'elle avait tout le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer.
Alors Tideland, sorti en 2005, débute par cette lecture de quelques lignes de Lewis Carroll, une façon habile de nous entraîner dans ce conte extrêmement noir, mortifère et chargé de symboles en tout genre. Donc dans Tideland, le spectateur suit une petite fille dans sa descente non pas aux enfers, mais dans le terrier morbide et psychédélique d'un lapin mort depuis belle lurette. Donc Jeliza Rose est la fille d'un chanteur de rock aux veines pleines d'héroïne, incarné par Jeff Bridges. Après la mort de sa mère, Jeliza Rose et son père partent à la campagne et s'installent dans la ferme familiale abandonnée depuis plusieurs années. Mais dès le premier soir, le père est lui aussi victime d'une overdose et meurt en silence, sans que la petite fille n'en ait conscience. Donc va commencer alors pour elle une plongée progressive dans une série de fantasmes de plus en plus inquiétants et glauques que viennent peupler en vrac des têtes de poupées, des grands requins de prairie et un couple de voisins aussi toqués que des chapeliers. Donc avec Tideland, Gilliam laisse libre cours à la noirceur de son esthétique et à la misère sociale qu'on pouvait déjà rencontrer dans certains de ses précédents films. Donc par exemple dans The Fisher King, réalisé en 1991, qui marquait la première collaboration de Gilliam avec Jeff Bridges, on trouvait déjà des personnages de naufragés, toute une compagnie de clochards, dont certains à la lisière de la folie. Et dans ce film, Robin Williams joue Paris, l'un de ses laissés-pour-compte, qui fuit un drame personnel, et se réfugie dans une quête illusoire en prenant un animateur de radio cynique et égoïste qu'il a rencontré par hasard pour un chevalier de la table ronde dont le destin est de retrouver le Saint Graal.
Jack, allons-y pour une dernière répétition.
S'il te plaît,
c'est là que le Saint Graal est dans la... Écoute-moi, je t'en prie, pas de bave ni d'yeux révulsés, je te dis, Paris,
il ne faut pas faire ça.
C'est de l'invention, ton Graal.
Oh, Jack, homme de peu de foi, il y a forcément un Graal. Ce serait quoi alors, un coup de pub du pape, toutes ces croisades? Oh, païen, le Graal existe. Non. Viens,
attends,
écoute-moi, attends.
Hé hey
Tu n'es que partiellement dément. Et les gens comme toi ont une vie semi-normale, ils peuvent trouver un emploi.
J'ai un emploi, Jack. J'ai une quête.
Je me suis trompé. T'es gravement atteint. Tu vas te faire tuer si t'essayes d'entrer là-dedans.
Tu es trop chaud. Je sais enfin ce que tu veux. Tu veux à tout prix me protéger, hein? Tu crois qu'un danger m'attend?
Non, non, je crois que tu débloques et j'ai pas envie d'avoir des problèmes.
Tu as du cœur, D'abord l'argent et maintenant ça. Oh ça alors, ça c'est trop chou. Oh, quel fabuleux garçon tu es.
On n'embrasse plus jamais en public, d'accord?
Entre hommes. Oh Jack, je l'aime ce Jack. Vous entendez? Je l'aime ce Jack. Oh, tu m'entends, ville blasée?
Tu vas te chier, oui.
Jack, il a du cœur. Oh Jack, que dans cette ville d'enfoiré blasé tu puisses...
Putain, mais ferme ta gueule, putain.
Vous entendez? Je suis ma boule de ce type. Oh Jack. Oh, t'es un véritable être humain. Oh, t'es un ami. Un ami, un vrai.
C'est faux. Fais-moi confiance. Je suis une salope.
Oh non. Non, je refuse de t'écouter. Tu es bon comme ce bon dieu de bon.
Non, je pense qu'à moi, je suis faible. J'ai même pas la volonté d'une mouche sur une merde.
Les petits bonshommes t'ont envoyé à cause de ça. Ils le savaient. C'est de la magie, ça.
Oui,
c'est
mais moi, je crois pas aux petits bonshommes flottants. Je n'y crois pas. Il n'y a aucune magie.
Mais tu m'aideras quand même, Jack. C'est capital, ça.
Paris.
Tu vas m'aider et
c'est... Paris, ou Dieu sait comment tu t'appelles. Tu sais que rien n'est vrai, ni le Graal.
Jack,
les voix.
Jack, arrête.
Dans un coin de ta tête, tu sais que c'est pas vrai, quand même.
Non, je crois qu'il faut faire un plan d'attaque.
Paris, Jack, écoute-moi.
Jack. Je te trouve bizarre.
Je sais qui tu es. Tu es un intellectuel.
Jack, lâche-moi.
Non, c'est moi la faculté de Hunter.
Paris,
t'es un enseignant.
Alors dans le projet avorté L'homme qui tua Don Quichotte, Guilliam avait prévu à nouveau de donner un rôle central à un homme à moitié fou ou complètement fou. Le personnage inventé par Cervantes se persuade lui aussi d'être un chevalier et décide du jour au lendemain de parcourir le monde en quête d'aventure. Alors malheureusement, Don Quichotte est un vieillard décrépit et ce qu'il prend pour des géants ne sont que des moulins à vent, comme chacun sait. Donc encore une fois, dans un film de Guilliam, la fiction devait venir recouvrir une partie de la réalité, pour le meilleur ou pour le pire. Mais bon, la production du film entamée en 2000 a été frappée par une série de calamités qui ont contraint Guilliam à abandonner son projet. Alors, au passage, assez récemment, le réalisateur a réussi à récupérer son scénario des griffes des assureurs et le film a été relancé avec Ewan McGregor en lieu et place de Johnny Depp et Robert Duvall dans l'armure que devait enfiler Jean Rochefort. Donc revenons à nos moutons, la thématique de la folie, on la retrouve dans d'autres longs-métrages du cinéaste. Par exemple, à un certain point de L'Armée des Douze Singes, le personnage qu'interprète Bruce Willis commence à suspecter sa santé mentale d'être responsable de la situation cauchemardesque dans laquelle il se trouve, et le doute de s'installer aussi chez le spectateur avant que la triste réalité ne vienne se rappeler à lui.
Je ne viens pas vraiment de l'espace.
Lui, c'est Washington, il ne vient pas vraiment de l'espace.
Ne te moque pas de moi, l'ami.
Dégage à mon fauteuil!
Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Ogo est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas, je serai guéri. Est-ce que toi aussi tu es divergent, frère ?
Mais la folie n'est pas la seule façon de fuir la réalité chez Terry Gilliam. Il y a un autre moyen, moins destructeur, qui consiste tout simplement à s'abandonner à la fable, à la légende ou au mensonge.
Et tandis que se levait le soleil sur l'île au fromage, étirant les longues ombres des buissons à saucisses, illuminant la crête des arbres à miel, et réchauffant les champs de saumon fumé, moi, baron de Munchausen, qui suis reconnu d'abord et avant tout pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Alors travestir la réalité grâce au conte, c'est le thème central des aventures du baron de Munchausen. Et d'une certaine façon, le récit des frères Grimm, donc un autre film que Guilliam a réalisé en 2005, le récit des frères Grimm gravite également autour de cette même question. Donc dans Munchausen, Guilliam utilise un personnage de la littérature allemande pour créer une histoire rocambolesque qui entremêle réalité et fiction. Le film commence dans une ville en siège, encerclée par une armée de Turcs sanguinaires. Et dans ce cadre pas vraiment idéal, une troupe de théâtre essaye tant bien que mal de raconter sur scène les hauts faits du célèbre baron de Münchhausen. Quand une personne dans le public interrompt le spectacle et déclenche un scandale en prétendant être le véritable baron. Donc s'en suivent des péripéties toutes plus incroyables les unes que les autres, jusqu'à un dénouement qui vient remettre en question tout ce qui a été vu jusqu'alors.
J'ai bien peur que vous disposiez d'une mauvaise approche de la réalité.
Votre réalité, sir, n'est que l'heure et baliverne. Et je me délecte à vous dire que je n'en ai aucune approche, ni de près ni de loin.
Non, non. Défiance, le pauvre a besoin d'un docteur.
Un docteur.
Le spectacle continue en dépit de tout. Merci, merci, votre ordinarité. Bon.
Voilà, donc si Münchhausen, c'est avant tout un hommage au conte fantastique, il permet également à Guilliam de mettre pour la première fois en abîme son propre travail en tant que cinéaste et raconteur d'histoires. Donc une thématique que le réalisateur explorera à nouveau avec l'imaginarium du docteur Parnassus bien des années plus tard. On va marquer une petite pause avant de continuer donc sur Terry Gilliam. Je vais laisser la parole à mon collaborateur.
Ah, c'est comme ça que tu le voyais. Non, moi je voyais plutôt une espèce d'ellipse, tu vois, je faisais de la vuvuzela pendant que toi tu passais tout de suite à la deuxième partie. Non, tout simplement pour expliquer aux auditeurs qu'on attend donc Laurence Richard par téléphone, mais pour elle c'était 14h pétante, donc il n'est pas 14h pétante. Donc ça veut dire que on doit poursuivre. Alors soit tu poursuis sur Terry Gilliam.
Oui, on a fait une pause largement suffisante à mon avis, voilà, on peut enchaîner maintenant.
Absolument.
Donc quand les personnages de Terry Gilliam ne sombrent pas dans la folie complète ou ne se racontent pas des histoires à dormir debout, ils peuvent toujours se rabattre sur une autre façon de fuir le monde. Une façon que certains ont qualifiée de paradis artificiel.
On avait deux sacs bourrés d'herbe, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une galaxie multicolore de remontants, sédatifs, hilarants, larmoyants, criants. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, 1 demi-litre d'éther pur et 2 douzaines de poppers. Donc on a eu besoin de tout ça pour le voyage, et quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite.
Alors, en adaptant le roman culte de Hunter Thompson, Las Vegas Parano, Gilliam nous propose une balade sous acide de 120 minutes dans le Las Vegas des années 70. Donc, nous suivons Raoul Duke, incarné par Johnny Depp, un journaliste alter ego de Hunter Thompson, qui part couvrir une course de moto dans le désert qui entoure la ville du péché. Donc, accompagné de son avocat, qui est joué par Benicio del Toro, Raoul Duke va mettre à profit ce reportage dont il se fout comme de sa première ligne de coke pour repousser les limites de la défonce et tenter de toucher du doigt l'essence de cette période cynique qui voit les utopies des années 60 s'écrouler les unes après les autres. Alors Las Vegas Parano est peut-être ce que Gilliam a tenté de plus expérimental d'un point de vue formel mais aussi narratif. En fait, le film est fidèle au concept du journalisme gonzo inventé par Thompson et consiste donc en une immersion subjective et sans cesse perturbée par la drogue dans le Las Vegas décadent de l'an de grâce 1971. Alors pour faire sortir ces personnages de la réalité, Gilliam a aussi eu recours par deux fois à un procédé classique de la science-fiction, le voyage dans le temps, qui permet de quitter un plan de réalité sans pour autant basculer dans l'imaginaire, la folie ou dans un réel altéré par les drogues. Donc dans Bandi-Bandi, le héros est un petit garçon qui s'ennuie dans sa vie trop bien rangée et qui va partir à la suite d'une bande de nains voleurs dans une exploration de l'histoire. Donc de Robin des Bois à Agamemnon, en passant par Napoléon, le jeune Kevin va rencontrer une pléthore de personnages légendaires et faire un voyage inoubliable avant de revenir dans le présent, qui va être passablement bouleversé par son incursion dans le temps. Ensuite, avec L'armée des 12 singes, le réalisateur revisite le court-métrage de Chris Marker, La Jetée, et propulse son personnage dans une course-poursuite à travers le temps pour éviter qu'une apocalypse bactériologique ne survienne. Donc, Gilliam signe l'un des plus fascinants films de voyage dans le temps de toute l'histoire du cinéma et offre à Bruce Willis son rôle le plus complexe et le plus remarquable.
Bravo, bravo, esattamente perfetto, alza ancora, Dans votre semi-inconscience, comme nous vous interrogions, vous avez dit que vous adoriez la musique.
Ce n'est plus la prison, James.
Vous êtes à l'hôpital.
Jusqu'à ce que vous retrouviez votre équilibre.
Vous êtes encore un peu désorienté.
Les voyages dans le temps, c'est extrêmement éprouvant.
Vous en êtes très bien tiré, tout compte fait.
Vous avez établi les liens qui existent entre l'armée des douze singes et les Goïns Spéréfi.
D'autres vont prendre le relais.
D'autres vivront en surface d'ici quelques mois.
Reprendront le contrôle de la planète.
C'est gagné, James. Voici la récompense de vos efforts.
Et quelle récompense? Une grâce.
Vous sortirez bientôt.
Toutes les femmes vont se pendre à votre cou.
J'en veux pas de mon femme, je veux guérir!
Allons, vous irez bientôt mieux, James. La promis.
Vous n'existez pas. Vous n'êtes pas vrai. Personne ne peut voyager dans le temps. Woup, woup. Non, c'est du délire. En réalité, vous n'êtes pas là. Vous êtes dans ma tête. Je suis fou. Et vous êtes ma folie.
Voilà donc un petit exemple du pétage de plomb de Bruce Willis dans ce film. Alors j'ai gardé pour la fin deux longs métrages qui ont une place particulière dans la filmographie de Terry Gilliam. Donc son dernier film en date, L'Imaginarium du docteur Parnassus, qui est un voyage fascinant dans l'imaginaire des individus. Donc en passant de l'autre côté du miroir du docteur Parnassus, chaque personnage se retrouve dans un univers de fantasmes où va se jouer une lutte acharnée pour le salut de son âme. Le film entier se construit autour de cette idée de fuite dans la fiction et de la révélation que cette fiction peut offrir aux explorateurs pour mieux appréhender le réel une fois sorti de l'imaginarium. Et avec ce film, on retrouve avec bonheur les talents de poète et de créateur d'images de Gilliam. Le film est somptueux et le sujet permet au réalisateur de parler à nouveau de son travail en tant que créateur, un peu à la façon du Big Fish de Tim Burton, mais avec moins de mélodrame et un peu plus de folie.
Quelque part en ce monde, à cet instant, une personne raconte une histoire. Une histoire différente, une saga, une histoire d'amour. Le récit d'une mort imprévue, cela importe peu, mais cela maintient l'univers. C'est pourquoi je suis encore ici. On ne peut empêcher une histoire d'être racontée.
Donc voilà, pour une critique un peu plus conséquente de ce film, je vous renvoie à l'émission de Cinérama du 18 novembre, si vous êtes intéressé. Vous pouvez trouver le podcast sur le site de Divergence FM. Donc pour conclure sur Terry Gilliam, parlons rapidement de Brazil, le film qui m'a fait tomber amoureux de Terry Gilliam et qui constitue pour beaucoup de spectateurs son chef-d'œuvre. Alors, adaptation officieuse du roman 1984 de George Orwell, Brazil nous plonge dans une dystopie cauchemardesque, gangrénée par une administration kafkaïenne. Sam Lowry est un petit fonctionnaire qui passe son temps à rêver qu'il est un surhomme en guerre contre des forces maléfiques. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, la dégénérescence du monde qui l'entoure vient contaminer ses rêves et Lowry s'enfonce progressivement dans la paranoïa et les hallucinations. Donc avec Brazil, Gilliam nous propose un film d'anticipation parfait, suffisamment surréaliste pour être drôle et suffisamment réel pour donner naissance à une tragédie romantique qui nous touche en plein cœur. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous conseiller d'éteindre la radio, de vous précipiter dans le magasin le plus proche et de vous immerger dans cet univers loufoque, poétique et assez inoubliable que nous a offert Gilliam il y a de ça 25 ans. Vous ne le regretterez pas et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus par ma diatribe et qui préfèrent télécharger un screener de Transformers 2 en VF, je vous promets que ça va mal se passer.
Matricule 93-HKS-608, vous êtes accusé des faits suivants. Aide et assistance apportée aux ennemis de la société. Assistance à une fugitive réclamée par la justice. Divulgation de divers documents secrets à agents subversifs, voire dossier G12, Gillian Layton. Destruction de matériel officiel décrit comme étant un nombre indéterminé de véhicules personnels. Appropriation des véhicules officiels. Contrefaçon de la signature du chef de service des archives officielles. Tentative de détournement de fonds officiels sous forme d'un chèque au nom de Buttle, établi en infraction avec la procédure. Sabotage des canalisations de centrales service. Résistance aux forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission, diffamation du gouvernement et notamment de la réputation exemplaire et sans tache du bureau de recoupement des informations, tentative de démantèlement du système de communication par voie interne du bureau de recoupement, gaspillage de la patience du ministère et du papier à lettres.
Ou bien vous admettez votre culpabilité sur l'essentiel des chefs d'accusation, ce qui réduira les frais et les mettra à portée de votre bourse, ou on vous prête la somme voulue à un taux à débattre mais très compétitif. Choisissez.
Nous vous offrons un prêt à 10 ans, 3/4% sur 30 ans, mais vous devrez souscrire une assurance afin d'être éligible.
Si vous préférez, on peut prendre une garantie qui serait défalquée de votre compte à concurrence d'un million.
À ce stade, vous êtes seulement requis de signer ce document.
Votre intérêt est de bien réfléchir, car en matière financière, réflexion vaut gain. Décidé.
Plaider coupable, c'est plus facile, plus rapide et plus économique.
Voilà un petit aperçu de l'ambiance
sonore, oui, effectivement, sonore derrière fond et puis tout ce qu'on lui reproche. Ouais, voilà. Extraordinaire.
Donc, eh bien, c'est terminé pour cette approche rapide et subjective de l'œuvre de Terry Gilliam. Alors, si, comme je l'ai fait, il est possible de dégager de sa filmo la thématique récurrente de l'évasion dans la fiction, une idée qui renvoie bien sûr à la fonction première du cinéma, en particulier du cinéma de l'imagination, on peut aussi aborder ces films de différentes façons. L'œuvre de Terry Gilliam est d'une richesse assez incroyable. À chaque nouvelle vision d'un de ses films, on découvre de nouveaux détails ou de nouvelles portes d'entrée pour pénétrer dans la tête de ce grand monsieur du cinéma, dont on attend avec impatience le prochain film. Voilà, et pour ceux qui n'étaient pas là au début et qui n'ont pas encore la petite rengaine du film bien en tête, on va vous repasser un petit coup de Brésil.
Du monde de football, là, vous vous jouez là, nous on a ce morceau donc extrait d'un bande originale de Brésil, puisque c'était un spécial Terry Gilliam préparé aujourd'hui par Martin dans Cinérama, et nous avons par téléphone, pour parler d'un tout autre sujet, ça c'est de l'actu festival, pour les héros du cinéma, festival du film d'Ac du 18 au 21 juin, nous accueillons Laurence Richard, bonjour Laurence Richard. Alors, visiblement, petit souci pour nous entendre. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive dans Cinérama, ni dans d'autres émissions. D'ailleurs, on est assez coutumier du fait. Alors, bien, je vais parler, le temps qu'on règle ce problème en régie, bien de ce festival de cinéma. qui se déroule donc du vendredi 18 au lundi 21 juin. Ça se passe eh bien, à la ville d'Agde. C'est la 7e édition, donc c'est pas un film nouveau, c'est pas un festival nouveau. Et il se trouve que c'est un festival qui mélange alors les films plutôt commerciaux, plutôt populaires, et puis avec d'autres films qui sont en avant-première. Et ce qui est intéressant dans ce festival, c'est que tout est gratuit. Voilà, il suffit de retirer des invitations à l'office de tourisme pour assister aux projections. Alors Laurence Richard, je crois que vous ne nous entendez pas. Il y a un petit souci. Qu'est-ce qu'on fait? On repasse du Brésil.
Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, on va écouter tout de suite un petit morceau.
Non. Voilà. Presque. Je pense qu'il faudrait faire ça parce que ce serait intéressant de régler le problème. Donc on repasse Brésil. Voilà. C'est comme ça. Et puis moi, je vais aller du côté de la régie, essayer de voir ce qui se passe. À tout de suite.
Voilà, donc pour la deuxième fois d'affilée, vous avez écouté donc Brésil. Maintenant, vous l'avez bien, bien dans la tête. Brésil. Donc, pendant que Vincent se débat avec les démons de la technique qui ont décidé de gâcher l'émission aujourd'hui, je vais en profiter pour, vu qu'on va pas s'entendre ou se parler pendant quelques mois. Pour vous faire un petit agenda donc des films à ne pas rater pendant l'été. Alors déjà, dès aujourd'hui, vous pourrez aller voir l'agence Tourisque de Joe... Non, je plaisante. Vous pouvez éviter d'aller voir l'agence Tourisque de Joe Carnahan, même si c'est produit par Ridley et Tony Scott, à moins que vous soyez un fan inconditionnel de la série et que vous ayez les statuettes en plastique de tous les personnages dans votre chambre. Par contre, aujourd'hui, donc, pour redevenir un peu sérieux, vous pourrez aller voir L'Illusionniste. Alors, L'Illusionniste, c'est le deuxième long-métrage de Sylvain Chomet. Sylvain Chomet qui avait réalisé Les Triplettes de Belleville, il y a de ça quelques années. Et L'Illusionniste se base sur un scénario original de Jacques Tati, que Tati n'avait jamais tourné. Donc, Sylvain Chomet a décidé d'adapter ce scénario de Jacques Tati et de recréer en animation le personnage aussi de Tati. Donc voilà, nous avons un personnage animé qui ressemble vraiment au Monsieur Hulot qu'on connaît tous. Donc ça sort aujourd'hui, ça s'appelle L'Illusionniste. Ensuite, on va passer à la semaine d'après, c'est le 30 juin. Donc le 30 juin, vous pourrez aller voir Shrek 4. Non, ça aussi, c'est une plaisanterie, à moins que vraiment vous en ayez marre et que voilà, c'est le dernier. Donc vous allez le voir parce que c'est le dernier. Non, le 30 juin, vous pourrez aller voir Splice de Vincenzo Natali, un film alors qui mélange science-fiction et aussi drame intime. Donc Splice, ça raconte l'histoire de deux généticiens qui bricolent un peu l'ADN et qui arrivent à créer une chimère en mélangeant de l'ADN humain avec plusieurs ADN animaux. C'est avec Adrien Brody et Sarah Paulet et Vincenzo Natali, celui qui avait réalisé Cube, entre autres, Cypher également. Donc ça peut être plutôt intéressant. Et puis, donc toujours le 30 juin, vous avez Mathieu Amalric qui va sortir son nouveau film, Tournée, film qui a reçu le prix de la mise en scène et de la critique internationale au Festival de Cannes de cette année. Donc ça aussi, ça peut valoir le coup d'œil, un côté un peu... New Burlesque, le film s'intéresse à ce type de show, le New Burlesque. Donc,
ça ressemble à du John Waters dans l'esprit. Ce qui est plutôt bien, pour un film français d'ailleurs, c'est assez rare.
C'est assez rare d'être dans la truculence de John Waters. Donc voilà, ça c'est pour juin. Pour juillet, alors le 7 juillet, à noter que vous avez les films de Pierre Etex qui ressortent en salle. Alors peut-être pas partout en France au même moment, mais donc voilà, pour info, Pierre Etex a gagné son combat juridique contre l'escroc qui faisait blocus, qui avait
racheté. Distribution des films sans en assurer effectivement la distribution.
Donc ça c'est terminé. A priori, les tribunaux ont donné raison à Pierre Etex. En tout cas, lui ont permis de réexploiter ces films qui n'avaient pas été montrés au public depuis des dizaines d'années, je crois. Donc voilà, ça c'est, je pourrais pas vous dire quels films ressortent, mais on peut imaginer que Yo-Yo va ressortir, peut-être pas partout comme je l'ai dit, et peut-être qu'il faudra attendre un petit peu pour les voir à Montpellier. Et sinon, alors dans un tout autre genre, un film qui peut-être peut créer la surprise, c'est Centurion de Neil Marshall. Alors, Centurion de Neil Marshall, ça se passe en 117. Et c'est une sorte de péplum qui se passe en Grande-Bretagne, au nord de l'Angleterre, et qui raconte l'affrontement entre l'armée romaine et les tribus de Pictes. Voilà donc un scénario qu'on avait pu déjà explorer un petit peu avec le roi Arthur d'Antoine Fuqua. Et Neil Marshall, c'est le réalisateur de The Descent, donc un film plutôt réussi, réalisateur aussi du moins bon Doomsday. Mais bon, pourquoi pas, Centurion, donc ça, à partir du 7 juillet. Je continue un petit peu.
Non, moi je peux en terminer avec ce festival, donc les héros du cinéma. Festival de Cap d'Agde, puisque nous n'aurons pas Laurence Richard par téléphone, puisque les voix du standard sont impénétrables, décidément. Alors, juste rappeler le principe donc de ce festival, c'est d'avoir des invités, c'est d'avoir des projections de longs-métrages, mais aussi des projections de courts-métrages, et notamment les meilleurs, ceux qui ont été primés dans les autres festivals pendant l'année 2009. Donc, ils récupèrent la crème des courts-métrages. Et ensuite, il y a un jury qui se réunit. Donc là, le président cette année, c'est Fabien Otaniente, que tu dois bien connaître, Martin, puisque tu as vu ses nombreux films, 3-0, Camping 1, Camping 2.
Oui, tout à fait. J'ai même fait une mémoire de maîtrise sur Otaniente. Ouais.
Oui, c'était mérité, enfin, quand même, que le monde universitaire s'intéresse à ce réalisateur. Enfin voilà, donc du cinéma populaire, en tout cas lui, il sera président de ce jury. Donc il y a tous ses courts-métrages qui sont diffusés. Et puis, entre tout ça, eh bien, il y a des avant-premières, notamment, ça commence ce jeudi 17 juin à 21h avec Les Petits Ruisseaux. Un film de Pascal Rabaté, donc Pascal Rabaté qui est avant tout un auteur de BD, hein, qui a fait Léon Lacam et Le Bibin d'âme céleste, je crois.
Un très bon auteur de BD.
Un très bon auteur de BD, alors après il faudra vérifier si c'est un très bon réalisateur. Il avait déjà réalisé un long métrage, mais moi je ne l'ai pas vu. J'aimerais bien, j'avoue, voir ce deuxième film, donc Les Petits Ruisseaux, qui sera projeté à 21h. Alors, ensuite, le vendredi, par exemple, eh bien, c'est le long-métrage Welcome qui est projeté. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec une avant-première puisque Welcome a cartonné. Mais on retrouve eh bien, Clémence donc de et avec Frank Buchter. Donc autant dire que bon, on ne connaît pas spécialement ce Frank Buchter. Et il sera présent. Et c'est ça l'avantage de ce festival, c'est qu'à chaque fois, généralement, qu'il y a une avant-première, le réalisateur est présent. Donc, après, le samedi 19, qu'est-ce qu'on peut voir ? Il y a Je vous aime très beaucoup. Ça, c'est un film de Philippe Loquet. Alors, normalement, avec Bruno Lechet, qui devait être présent, mais qui ne pourra pas venir. Bruno Lechet, donc un ancien des Deschiens. Avec Philippe Duquesne aussi, donc, qui est aussi un ancien des Deschiens, qui lui, n'était pas prévu, donc il n'y a pas de souci, mais qui est dans le film. Donc, ça peut être un film intéressant, hein, avec les anciens des chiens. Et puis, à 21h ce samedi, du côté d'Agde, donc, ce sera Mammouth, le film de Kervern et Delépine, dont on a abondamment parlé parce qu'on avait eu une interview de Kervern dans ce cinérama. Et là, eh bien, Gérard Depardieu sera présent pour en parler. Donc, ça vaut toujours le coup d'aller le voir. Quelqu'un de truculent, hein. Tu sortais le mot truculent, ben je crois que c'est le cas pour Gérard Depardieu. Et puis le dimanche, donc, au niveau des avant-premières, il y a Les Nuits de Sister Welch. C'est de Jean-Claude Janer avec Anne Brochet, qui sera aussi présente pendant le festival. Et puis il y a la cérémonie de clôture avec Cargo, Les Hommes Perdus de Léon Descloso. Et là, c'est avec Aurélien Recoin qui sera présent et Abel Jaffry. Voilà, donc pas forcément un film très très connu, je pense, là dans la trempe à réessai, parce que Aurélien Recoin n'a pas l'habitude de jouer dans des films commerciaux et populaires. Et puis, ils ont l'habitude aussi dans ce festival de terminer la dernière journée, le lundi 21 juin, avec eh bien, la musique. La musique fait son cinéma. Alors, ce qui est à noter, c'est qu'on commence avec un réalisateur de BD, donc Pascal Rabaté, le jeudi, qui ouvre le festival. Et la fermeture du festival se fera avec le film de Johan Sfar, aussi auteur de BD avant tout, pour son film Gainsbourg. Voilà. Et alors là, il ne sera pas présent, ce sera juste voilà, histoire de terminer le festival. Donc, si vous voulez des renseignements, bien le plus simple en fait pour avoir le programme, c'est d'aller sur www.actdecinetele.com. Je crois qu'il y a aussi un site internet vraiment dédié à ce festival. Voilà. Donc, bien, j'en ai terminé moi avec ce festival. C'est une bonne chose de fait et ça me rassure. Après, toi, tu peux continuer avec les sorties de l'été et on passe aux événements.
Oui, bah, moi, je m'étais arrêté donc au 14 juillet. 14 juillet, donc vous pourrez aller voir trois films, à mon avis. Toy Story 3. Troisième épisode des aventures de Woody et Buzz, qui alors Toy Story 3 qui n'est pas réalisé ni co-réalisé par le créateur de Toy Story, John Lasseter, mais par Lee Unkrich. Alors Toy Story 3 est prévu bien évidemment en 3D un peu partout, sachant que Pixar en général c'est du très haut niveau, ça vaut bien mieux que les Shrek et autres production d'autres studios comme Blue Sky, Dreamworks, etc. Même si voilà, le récent Dragon pourrait venir contredire cette idée qu'il n'y a que Pixar qui fait du bon film d'animation en 3D. Ensuite, toujours le 14 juillet, vous pourrez aller retrouver des vilaines bébêtes qui ont fait les beaux jours d'un certain cinéma de série B il y a de ça quelques temps avec Predators de Nimrod Antal, donc troisième film qui est consacré uniquement aux créatures des Predators, donc qui avait été pour la première fois mis à l'écran par John McTiernan. Voilà, Nimrod Antal a réalisé quelques autres films dont Contrôle, je crois, un film d'épouvante thriller dans les sous-sols de métro. Et c'est produit par Robert Rodriguez, si je ne m'abuse. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et enfin, toujours cette semaine du 14, vous avez le nouveau film de Milos Forman qui sort, Taking Off. Alors, sachant que le précédent film de Forman, qui date déjà de 2007, Les Fantômes de Goya, eh bien, c'était pas terrible. Moi, personnellement, ça m'avait un peu laissé de marbre.
Oui, tu lui avais envoyé un texto, d'ailleurs.
Oui, hein. oui. Enfin, je l'avais rué dans les brancards, remonté les bretelles un petit peu. Et je lui avais dit, le prochain, tu te bouges un peu. Donc, Taking Off, peut-être que ça peut être bien. Ça, c'est toujours le 14 juillet. Et la semaine suivante, donc, vous avez un gros morceau. Alors, c'est un des rares blockbusters, finalement, qui sort cet été. Quand j'ai regardé toutes les sorties de l'été, il y a assez peu de blockbusters, alors que voilà, chaque année on a le droit à soit Harry Potter, soit des films de super-héros, etc. Et bien, la semaine du 21 juillet, vous pourrez aller voir Inception de Christopher Nolan. Donc, c'est un blockbuster, mais c'est pas non plus un film peut-être si bébête que l'étiquette blockbuster pourrait induire. Christopher Nolan, c'est bien sûr le réalisateur de Memento, de Insomnie et des deux derniers Batman en date. Et Inception, c'est une sorte de thriller d'anticipation à gros budget avec Leonardo DiCaprio. Un film qui a l'air d'avoir un scénario plutôt intéressant, plutôt original. Ensuite, on passe en août. Alors, on saute une semaine où il n'y avait rien à voir, si ce n'est trois comédies françaises bien pourries et quelques drames ukrainiens qui m'ont pas... fait briller l'œil. Et on passe au 11 août, la semaine du 11 août, où vous avez un nouveau film de Michael Winterbottom qui sort, The Killer Inside Me. Alors, The Killer Inside Me, c'est adapté de Jim Thompson, un auteur qui avait déjà été de nombreuses fois transposé au cinéma, en particulier avec Coup de torchon de Tavernier, Série noire d'Alain Corneau, ou Guet-apens de Peckinpah, et qui avait été aussi scénariste pour Kubrick, donc entre autres sur L'Ultime Razzia, sur Les Sentiers de la Gloire. Donc voilà, c'est The Killer Inside Me, adapté de Jim Thompson, et c'est Casey Affleck qui s'occupe de camper le rôle principal, donc un acteur plutôt intéressant, moi que j'aime bien, en particulier depuis l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford.
I know, well.
Avec une voix très particulière.
Oui, d'outre-tombe.
Et donc toujours cette semaine-là, du 11 août, alors ça c'est en bonus, vous avez le nouveau film de Hideo Nakata, Chatroom, qui sort, donc toujours un film d'épouvante, thriller, un peu technologique, sachant qu'Hideo Nakata n'a pas fait grand-chose depuis 2003, depuis son Darkwater, il a fait un remake de son propre film Ring aux États-Unis, ou Ring 2 je crois, je ne sais plus lequel il a réalisé des remakes. La chatroom, voilà, on est à nouveau dans un thriller technologique à base d'internet, de téléphone portable. Pourquoi pas, si Hideo Nakata revient un peu à ses premiers amours, donc avec Ring, Darkwater, qui étaient quand même des bons films d'épouvante. Ensuite, le 18 août, vous avez le film qu'on attend tous de cet été, c'est The Expendables de Sylvester Stallone. Le film qui réunit enfin sur grand écran Arnold Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Jason Statham, Jet Li,
wow.
Et j'en passe. Voilà, vraiment un casting de gros bras de tous ceux qui ont fait la grandeur du cinéma d'action des années 80-90, etc. The Expendables, ça peut être assez régressif et assez plaisant, à mon avis. Ça, c'est à partir du 18 août que vous pourrez vous précipiter. Alors, j'imagine qu'il sortira pas à Utopia. Il faudra aller sans doute au Gaumont pour le voir en VF. C'est malheureux parce qu'ils ont tous des voix bien intéressantes aussi, ces gros bras. Et enfin, j'en termine avec le 1er septembre, semaine du 1er septembre. Vous pourrez aller découvrir la palme d'or de cette année, Oncle Boonmi de Happy Chapong Weerasethakul. Oncle Boonmi, donc on en a parlé ici en long, en large et en travers.
Évoqué quoi.
Mais donc ça sort le 1er septembre, ça par contre ça sortira sans doute à Utopia, en tout cas au Diagonal. Et puis pour ceux qui n'aiment pas les Palmes d'Or, vous avez également la sortie de Piranha 3D le 1er septembre. Donc Piranha 3D, dernier film d'Alexandre Aja, qui s'était déjà occupé de remake de films d'horreur, entre autres avec La Colline à des yeux 1 et 2. Et qui, paraît-il, s'en sort plutôt bien dans cet exercice périlleux du remake de film d'horreur. Voilà, Piranha 3D, remake plus ou moins, ou adaptation du film de Joe Dante, qui était sorti il y a un petit bout de temps.
Oui,
maintenant.
Longtemps. Hein, ouais. Eh bien, merci hein, pour toutes ces prévisions de sorties estivales. J'espère que vous avez tout noté sur votre agenda. Alors là, ça va être plus simple hein, parce que je vais vous parler des événements qui ont lieu eh bien, cette semaine jusqu'à la prochaine future probable émission de Cinérama, mercredi prochain. Alors on va commencer par le premier festival vidéo amateur Courbouillon qui se déroulera du 18 au 20 juin au Causse de la Selle, donc c'est dans l'Hérault. Ce festival a pour but d'encourager la production et la diffusion de courts-métrages vidéo numériques amateurs qui ne jouissent pas d'un réseau de diffusion. Donc, en clair, bah, ça doit être tous les courts-métrages qui ne sont pas diffusés à la télé, puisqu'au cinéma, on n'en diffuse quasiment plus maintenant. Alors, heureusement, il y a les festivals pour voir les courts-métrages. Alors, ça a l'air bon enfant hein, comme festival. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a de quoi voir aussi, avec des ciné-concerts, des projections de compétition, parce qu'il y a une compétition. Et puis, notamment, alors, dans le genre soirée spéciale ciné-concert le vendredi 18 juin à 23h, avec deux films de Charlie Bowers. Et puis, à minuit, le samedi, c'est une projection de films érotiques hors compétition. Noté série rose, voilà. Donc les amateurs se lancent aussi dans l'érotique. Et puis sinon, eh bien le 20 juin, vous pourrez rencontrer les réalisateurs. Et puis il y a le vin qui est offert en clôture à 18h et tout ça se termine très bien. Notez que tout, alors c'est pas très cher hein, l'entrée, mais que tout l'argent ira à l'association Pyretex. Voilà. Alors je sais pas s'ils l'ont lancé avant qui est eh bien, les résultats de son procès, mais enfin, en tout cas...
Cette association, oui, existe depuis un moment. Voilà,
Donc, ouais. Bon, ils ont prévu de donner tout l'argent à cette association donc, qui se battait pour que Pyretex récupère les droits de ses films. Alors, sinon, au Diagonal, événement avec ce soir, eh bien, la sortie de Baharia, le dernier film de Giuseppe Tornatore, qui avait fait
Cinéma Paradiso,
enfin c'est le plus connu.
Après La Légende du pionnier sur l'océan.
Voilà.
Et d'autres films.
Tu as deux points, c'est bien. Alors donc ce soir c'est une séance présentée, c'est ça le côté exceptionnel. Hein. Sinon il sort au Diagonal et il passe toute la semaine. Mais ce soir il y aura un professeur d'italien à l'université Paul Valéry qui viendra présenter ce film en fait qui retrace la vie de trois personnages d'une même famille, la descendance, voilà, donc grand-père, fils et petit-fils. Ensuite, jeudi 17 juin, 20h35, toujours au Diagonal, l'or bleu, ressources ou marchandises, point d'interrogation, de Didier Bergounou. C'est une séance suivie de débat avec le réalisateur Didier Bergounou et Attaque Montpellier, organisée par l'association Eau Vive, qui agit depuis 30 ans aux côtés des hommes et des femmes du Sahel. Donc, ben, pas la peine de détailler de quoi il sera question dans ce film documentaire, hein, vu que la question est posée, l'or bleu, ressources ou marchandises. Le 22 juin, toujours au Diagonal, donc sur les pas de Tony Gatliffe, ça va durer tout l'été, mais ça commence donc ce mardi 22. Eh bien, ce sera une rétrospective des films de Tony Gatliffe avec Gadjodillo à 19h et à 20h55, Vengo. Et en présence de Tony Gatliffe, puisque Tony Gatliffe eh bien, proposera son spectacle autour de Django Reinhardt la veille au Printemps des Comédiens. Et puis, eh bien, on va passer cette fois-ci au Festival du Roman Noir de Frontignan, avec un invité qui est Cédric Angers, donc Festival du Roman Noir, qui évidemment parle de littérature, mais fait des ponts aussi vers la BD et le cinéma. Et là, eh bien, ce sera un gros plan sur Cédric Angers. Tu vois qui c'est Cédric Angers ou pas du tout? Eh bien, il s'est fait remarquer dès 2005, figure-toi, avec sa participation au scénario du film de Xavier Beauvois, Le Petit Lieutenant, un film plutôt bien réussi, enfin, moi j'avais beaucoup apprécié. Et puis depuis, il a réalisé deux longs métrages, alors Le Tueur avec Gilbert Melki et Mélanie Laurent. Et puis en 2007, il a tourné L'Avocat, hein, qui a été tourné en région Languedoc-Roussillon et qui, à mon avis, est en post-prod actuellement. Donc le FIRN vous donne rendez-vous pour une soirée spéciale le mercredi 23 juin, donc c'est au Ciné Mistral, autour de cette nouvelle voix du noir français avec la projection de son film, donc Le Tueur, et puis de Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa, que Cédric Angers commentera, donc un vieux film de Kurosawa. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une soirée David Peace qui donc invite, j'imagine, le romancier et à vivre l'expérience de Red Riding Trilogy. Ces trois films, donc 1974, 1980, 1983, adaptés de son Quatuor du Yorkshire. Chaque film, à la fois indépendant et interconnecté aux autres, offre un point de vue différent sur les personnages et les événements à différentes époques de ce fait divers très noir. Donc il y a trois réalisateurs, trois films pour plonger au cœur du Yorkshire, version corruption, obsession et meurtre à dévorer le samedi. Lors d'une journée dédiée à l'auteur ou à déguster du vendredi au dimanche. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Toutes les infos, c'est sur le site du Festival du Roman Noir. Donc ça, c'est eh bien le côté cinéma. Mais j'essaierai, si je suis tout seul mercredi prochain, d'avoir Patrick Bedos qui s'occupe de cette partie, en règle générale. Cinérama s'achève sur les chapeaux de roue avec une interview téléphonique ratée avec eh bien quand même une musique d'accompagnement
oui,
qui on pourrait repasser. Si, si, on peut aller jusque-là. Et sinon, bah, Martin, bonnes vacances.
Oui, bah, écoute, alors peut-être dans 3 semaines, si pour le coup, toi, tu n'es pas en vacances.
Eh bien, figure-toi que je ne sais pas. C'est assez flou, ces histoires de vacances. En tout cas, la semaine prochaine, j'essaierai, moi, de voir tes films, ce que je n'ai pas pu faire cette semaine, et puis de faire un cinérama qui ne durera pas 1 heure, je ne pense pas, mais au moins 1 demi-heure. Voilà.
Voilà, bah, écoutez, si on ne se revoit pas, se réentend pas, se reparle pas depuis avant l'année prochaine, enfin avant la rentrée prochaine, bonnes vacances, profitez bien de tous les films qui vont sortir et portez-vous bien.
Et n'oubliez pas, pour réécouter la BO de Brésil et autres commentaires sur le cinéma, il y a les podcasts sur www.divergence-fm.org à la rubrique Cinérama. Et puis il y a aussi le blog Cinérama que vous trouverez dans l'article de chaque émission pour retrouver tout l'historique des émissions que tu prépares.
Voilà, et quelques critiques également qui sont en ligne sous forme texte.
Merci Martin. À la fin du générique, ce sera de partir avec Peter Sellers. On remercie Amélia à la technique. Au revoir.
Au revoir.
Oh non, coupez !
Monsieur Bakshi.
Oui, monsieur.
Est-ce que vous savez que ce film se déroule pendant l'année 1878 ?
Oui, je suis prévenu, oui, je sais. Oui, ce film se passe en 78.
Monsieur Bakshi, savez-vous également qu'à cette date, en 1878, on ne portait pas encore de montre de plongée ?
Ah oui, ça je le sais aussi, mais ça n'avait pas encore inventé, n'est-ce pas ?
Et quelle heure est-il ?
Attendez, il... Oh, bon sang.
Ça va, déjeuner tout le monde.
Cinérama.
Déjeuner, 40 minutes pour l'équipe technique, 1 heure pour les acteurs.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.